Bien, bon, d'abord, moi, comme tous les orateurs de la journée, je veux remercier Dominique Kerouédan d'avoir prévu ce colloque. J'ai participé à de nombreux colloques sur la diplomatie sanitaire à l'étranger. Je me plaignais que dans mon pays, il n'y ait pas ce type de débat. Et Dominique, merci de l'avoir mené. Alors, j'avais préparé quelque chose, mais eu égard à notre président de séance, je crois que je vais complètement changer ce que j'avais prévu. Alors, comme on arrive en fin de journée, peut-être que ça va un petit peu animer les débats. Alors, je croyais qu'on avait un président de séance. Je me suis rendu compte que François de Caillé était plutôt un procureur. Alors d'abord, je vais le remercier parce qu'il dit qu'il y a des gens extrêmement intelligents dans l'industrie pharmaceutique, brillants, et qui donnent une information absolument brillante. Donc je me sens tout à fait flatté. Donc François, je tiens à te remercier de ce que tu as dit. Alors il y a des choses quand même sur lesquelles que j'approuve, hein, puis il faut effectivement stimuler un petit peu le débat. Alors vous savez, moi je dis souvent, il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Il n'y a pas une sorte de complot international, de géopolitique, de l'industrie contre les problèmes de santé. Moi-même, je suis médecin, je suis hospitalier, toujours hospitalier. J'ai créé un certain nombre d'organisations humanitaires et j'avoue que je me sens pas mal à l'aise en tant que vice-président chez Sanofi, chargé de l'accès aux médicaments. Moi je pense que l'industrie, elle peut jouer un rôle, elle doit jouer un rôle. Alors, elle a été critiquée, elle est critiquable, on peut y revenir. J'ai beaucoup aimé la présentation de Pierre Empelé, avec qui j'ai travaillé à la Pitié-Salpêtrière, sur le sida qui a ouvert effectivement un certain nombre de portes. Alors, il a donné un calendrier. Simplement, je me permets de lui faire une remarque, il a oublié de parler du Fonds mondial, la création du Fonds mondial, il a parlé des résolutions des Nations Unies, ça a été quand même extrêmement important, la création du Fonds mondial, mais il y a quelque chose qu'il a oublié, vous voyez, c'est pas au bénéfice de l'industrie pharmaceutique, c'est le procès de Pretoria. Le procès de Pretoria, ça a été quelque chose d'extrêmement fort, hein, ça a été quelque chose d'extrêmement fort, puisque 39 multinationales, comme on les appelle, de l'industrie pharmaceutique ont décidé de se porter contre le régime sud-africain qui passait outre ce que disait François, la fameuse propriété intellectuelle. Alors là, effectivement, il y a eu, et tu as parlé dans ton échiquier des trois trépieds et de l'opinion publique, hein, l'opinion publique a joué un rôle extrêmement important, et on a dit, regardez ces salauds de l'industrie pharmaceutique, ils ne permettent pas l'accès aux antirétroviraux, alors que les médicaments sont au nord, les patients sont au sud, ils n'acceptent pas les génériques, le coût... Bon. Et 39 sociétés disent oui, mais il y a un droit de la propriété intellectuelle, il y a une organisation mondiale du commerce, et donc on porte plainte, et on porte plainte contre le gouvernement sud-africain. Puis là, effectivement, branle-bas de combat, puis on se dit quand même, on peut avoir juridiquement à l'époque, sur les lois de l'époque, juridiquement raison, mais socialement, éthiquement, socialement tort. On ne porte pas plainte dans un pays où il y avait 6 millions de personnes séropositives, et elles retirent leur procès, prise de conscience, cascade d'événements. Pierre l'a rappelé au niveau politique. Il y a eu aussi au niveau des accords ADPIC. Tu y reviendras peut-être sur les accords de Doha. Mais enfin, la possibilité de licence obligatoire, la possibilité de licence volontaire. Bon, c'est quelque chose quand même qui a été important et qui a permis effectivement une augmentation de l'accès aux soins. Alors après, on a parlé des objectifs du millénaire, les OMD. Bon, alors on a parlé du 4, du 5, du 6. Et puis on a parlé du 8. Le 8, c'est le partenariat. Alors on aime l'industrie pharmaceutique, on n'aime pas l'industrie pharmaceutique, mais il y a des partenariats, ils existent, ils sont faits en particulier avec l'organisation pour laquelle tu travailles, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a un partenariat. Alors on a beaucoup parlé aujourd'hui des résolutions des Nations Unies, ce que fait la France, ce que font les pays, mais ils sont où là les chiffres là, ils sont où? Elles sont où les évaluations? Des chiffres extrêmement concrets. Alors, nous, industrie pharmaceutique, effectivement, Sanofi, depuis 2001, on a créé un accord avec l'Organisation mondiale de la santé sur la maladie du sommeil, où on est quasiment le seul partenaire industriel. On a travaillé d'ailleurs avec Médecins sans frontières. Aujourd'hui, à ce jour, il a été renouvelé, ce partenariat. C'est beaucoup d'argent, mais comme l'a dit notre président de séance, on est extrêmement riche. Donc, on a payé 5 millions de dollars par an depuis 2001, et ça continue jusqu'en 2016, sur la lutte contre la maladie du sommeil. Ça a été 170 000 personnes traitées, 170 000 vies sauvées. Bon, ça c'est un bilan, il est clair, il est concret, il est extrêmement précis et il est fait avec l'Organisation mondiale de la santé. On va parler du paludisme. Avec nos amis d'INDI qui ne sont pas des vrais amis de l'industrie pharmaceutique, on a développé un médicament contre le paludisme, l'AZAC, 200 millions de traitements à un prix sans profit, sans perte. Et je vais revenir tout à l'heure sur la propriété intellectuelle. 200 millions de traitements, derrière il y a des femmes et des hommes qui peuvent mourir de paludisme, qui souffrent de paludisme, et en particulier des enfants. Daisy, vous avez parlé du Brésil, où on est très très présent au Brésil. Sanofi, on a un partenariat avec, avec Fiocruz, avec la fondation Oswaldo Cruz, en particulier sur la leishmaniose. Il y en a un sur la dengue, hein, la dengue qui va être un problème de santé publique, et j'espère qu'on sera la première société à avoir un vaccin contre la dengue dans ces différents pays, avec des approches économiques particulières. Moi, j'étais il y a 3 semaines au Brésil, il y avait un congrès mondial sur les leishmanioses, et j'en ai profité pour signer encore un accord avec Fiocruz dans le Ceará pour des agents de santé communautaire sur la lutte et le diagnostic de la leishmaniose dans le nord-est brésilien. Alors, on a parlé aussi ce matin, et on en aura parlé cet après-midi, de propriété intellectuelle, de médicaments essentiels. Alors, les médicaments essentiels, il y a une liste de l'OMS, 90% de ces médicaments sont hors brevet, off patent, comme on dit, donc ils sont disponibles, et ce n'est pas un problème de propriété intellectuelle, par contre, il y a un problème d'accessibilité. Deuxièmement, l'industrie pharmaceutique demain. Alors oui, il y a des questions qui se posent. Je redirai un petit mot tout à l'heure sur l'innovation. Mais c'est vrai que la croissance, François, et tout le monde est d'accord, je ne vais pas parler des BRICS, elle viendra du Sud. Elle viendra de l'endroit où il y a le moins d'accès aux médicaments. On dit que 60 à 70% de la population n'a pas accès aux médicaments. Mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux pays du Sud. Et pour s'adapter, c'est une modification du business model, du modèle économique. Alors, peut-être que tu as prononcé tout à l'heure le mot de prix différencié. Mais en tout cas, il faut changer ce modèle économique. Il faut effectivement diminuer les marges, revoir peut-être la propriété intellectuelle, faire du volume. Il n'y a pas des entreprises de génériques et des multinationales, parce que les multinationales aujourd'hui, Medley au Brésil, c'est Sanofi ou dans d'autres pays. C'est important, hein, et donc c'est une politique qui change. C'est le volume au lieu d'une marge extrêmement importante avec des volumes faibles dans les pays riches. Donc il y a cette mutation et il faut la reconnaître. Il n'y a pas un complot fondamental de l'industrie pharmaceutique pour uniquement gagner de l'argent et que la seule finalité soit gagner de l'argent. Deuxièmement, quand on regarde ce fossé entre le Nord et le Sud, on aime l'industrie, on n'aime pas l'industrie, mais elle a un savoir-faire qui fait que c'est un partenaire obligatoire. Hein, c'est un compulsory partner, parce qu'elle apporte, et quand je dis industrie pharmaceutique, je ne parle pas que de l'industrie du Nord, je parle aussi de l'industrie en Inde, en Chine, il y a une industrie naissante avec qui on peut travailler et qui sont un apport extrêmement important. Donc l'industrie, elle fait partie du paysage de la santé publique, c'est un des outils de la santé publique. Alors certes, elle a fait des erreurs, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut se poser un certain nombre de questions. Alors après, quand on parle de l'innovation, alors moi je dis souvent, attendez, ne parlons pas toujours de l'innovation, parce que l'innovation c'est demain. Et le problème, c'est aujourd'hui. Hein, les patients aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, c'est le problème de l'accès. Alors l'innovation aussi, il en faut. Alors moi, je ne vais pas discuter les chiffres. Alors c'est vrai que c'est un chiffre qui est donné entre 800 millions de dollars et 1 milliard sur le développement. Ce n'est pas pour tous les médicaments. Ça dépend dans les pays dans lesquels on fait des essais cliniques. Mais si je prends le vaccin contre la dengue, hein, où c'est des millions de personnes, et en particulier un essai qui est en cours au Brésil, les études cliniques de phase 3 sur le vaccin contre la dengue, elle coûte 400 millions de dollars. Ça, c'est le prix réel, je vous l'apporte. C'est une réalité, je ne parle pas du développement antérieur, de tout ce qui a été fait sur ce vaccin. Et on ne sait pas effectivement si, en bout de course, il y aura une efficacité et si ce vaccin, il va avoir des retombées commerciales. C'est d'une industrie à risque, comme toute la recherche. Il y a des investissements qui sont faits. Sur 100 molécules, il y en a une qui réussira, peut-être aucune. Et d'ailleurs, il y a une panne de la recherche. Il y a une panne de la recherche aujourd'hui. Il faut l'admettre, en termes de productivité de la recherche, il y a une panne de la recherche. Et puis, il y a un autre apport de l'industrie. Ça a été un petit peu dit ce matin, c'est la contrefaçon. Hein, la contrefaçon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un problème de santé publique. Hein, les faux médicaments ou les médicaments contrefaits dans un certain nombre de pays représentent un problème de santé publique. Et c'est vrai que les industriels du médicament, mais aussi les génériqueurs, qu'ils soient indiens, chinois ou les multinationales, c'est vrai qu'en termes de contrôle de qualité, qu'en termes de fabrication de médicaments de qualité, c'est quelque chose d'important. Hein, il n'y a pas qu'un problème de coût, il y a un problème aussi de qualité et d'assurance de cette qualité. Il y a aussi tout le problème de la formation. Alors on peut dire, bien sûr, c'est une formation dirigée. On forme des gens, en même temps, on leur inculque un certain nombre de choses sur l'industrie. Alors c'est vrai que cette industrie pharmaceutique est une industrie un petit peu à part. Un petit peu à part parce que autant on admet la notion de profit, et je le répète souvent, quelles que soient les industries, on se félicite de gagner de l'argent, autant gagner de l'argent, faire du profit sur la vie, sur la mort, sur la douleur, il y a quelque chose qui ne passe pas. Hein. On l'a dit ce matin, la santé, c'est un bien public. Est-ce qu'on peut faire du profit sur un bien public? Alors la santé n'a pas de prix, la santé elle a un coût aussi, et ça c'est une réalité. Donc c'est une industrie un petit peu mal aimée à cause de ça, alors qu'elle peut apporter, et elle a apporté un certain nombre de choses. Donc là aussi, c'est une industrie, si je prends en France, elle est parasitée par des affaires. Moi je ne me sens aucune solidarité avec l'affaire du Mediator, et avec ce laboratoire, rien du tout, je ne m'en sens rien. Alors c'est vrai qu'on commence à dire, c'est le laboratoire X avec le Mediator, et puis après on dit en fin de compte, c'est toute l'industrie pharmaceutique, et ils sont tous pourris. Alors moi non, moi je me différencie, moi je n'ai rien à voir avec un certain nombre d'affaires qui ont pu défrayer la chronique. Et ce parasitage avec un certain nombre d'affaires fait qu'on met tout dans le même sac. Voilà, et l'industrie c'est des pourris, et ils font ça, ils font de l'argent, et ils n'apportent pas de solution réelle. Donc voilà moi ce que je voulais dire. Alors j'avais prévu de parler un petit peu de diplomatie sanitaire et de la place des multinationales. Par définition, quand on parle de diplomatie mondiale, multinationale c'est multi-pays, il n'y a pas de frontières. Les multinationales, elles travaillent dans différents pays. C'est peut-être... Et puis j'avais envie de voir le verre plutôt à moitié plein que le verre à moitié vide. Puis je voulais parler juste d'expérience personnelle. Dans les années 80, j'étais médecin au Vietnam. C'était juste après la chute de Saïgon. Et puis dans les hôpitaux où je travaillais au Vietnam, j'entendais parler espagnol. Moi, je suis hispanisant et je me disais, tiens, on parle espagnol, c'est qui? J'allais voir, c'est des médecins cubains. Ah, tiens, les médecins cubains, ils sont quand même très présents. Plusieurs années après, de programme humanitaire, j'ai travaillé en Angola. Puis en Angola, pareil, j'entendais parler espagnol, c'était des médecins cubains. Et puis en Bolivie, il y a des médecins cubains. Et puis au Venezuela, des médecins cubains. Ah, j'ai dit, c'est formidable, regarde, cette petite île, il y a 12 millions d'habitants à Cuba, il y a 36 000 médecins coopérants de par le monde. Et c'est vrai que, on a dit un mot tout à l'heure sur la guerre froide, c'est vrai que cette petite île, Cuba, jouait de sa diplomatie avec la santé. Et c'est vrai que l'influence de Cuba s'est faite à travers la santé, à travers des médecins qui sont des médecins extrêmement compétents. Et puis le dernier point, comme vous pouvez poser de questions ce matin à M. Fabius, qui a fait un excellent discours, très très complet, très très bien, c'était de dire que, oui, la France fait beaucoup. Il a parlé d'un milliard d'euros, elle est le deuxième contributeur au niveau du Fonds mondial, United, un certain nombre de choses qui ont été faites, la dernière déclaration sur la couverture universelle. Mais c'est vrai que quand on participe, et quand on est, je ne sais pas si notre ami Gustavo est toujours là, quand on est dans les réunions internationales, ben notre pays il est peu présent, alors qu'il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses, et puis moi je ne vois pas souvent la France, dans un certain nombre de congrès internationaux, de réunions internationales, le pays n'est pas là. Et ça, c'est un tout petit peu dommage, parce qu'on fait, si on ne faisait pas, on pourrait se poser la question, mais là, on fait, et on s'aperçoit qu'on n'est pas présent à la hauteur de ce que fait la France, mais j'espère que ce colloque, cher Dominique, va être le point de départ d'un certain nombre d'actions, et qu'on va passer des paroles aux actes. Donc voilà, moi, ce que je voulais partager avec vous, je suis sûr qu'il y aura un certain nombre de questions, un certain nombre de critiques. En tous les cas, moi, j'étais ravi de partager ces moments avec vous. Je vous remercie, puis merci, Monsieur le Président.
Merci Robert. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à discuter. Il me semble que ça fait... La première fois que j'ai rencontré Robert Sebag, c'était en 1992. Il a été mon professeur au DEA. Donc c'est lui qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui.